Merci, Monsieur le Président. Et citation pour citation, je pense à celle de Pascal. Il n'y a rien de pire que les savants et les ignorants, sauf la catégorie la plus terrible, les demi-savants. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chère Laurence, que je retrouve avec plaisir. D'abord, merci beaucoup d'avoir songé à m'inviter. C'est très difficile de conclure un colloque auquel on n'a pas assisté. Mes remarques, je l'espère, ne seront pas trop décalées, mais lorsque le professeur Léna était venu me voir il y a quelque temps au Conseil constitutionnel, jolie maison que je préside maintenant, il m'avait exposé ses idées et me souvenant de la période où je présidais la COP21 et la conférence de Paris, je lui avais dit « Je pense que votre initiative, ce colloque, c'est une idée excellente. » Je me suis dit que c'était une initiative très, très intéressante et j'attends avec impatience les vraies conclusions de vos travaux. Laurence Tubiana vient d'y faire allusion. Je voudrais me situer sur deux plans. D'abord, en revenant à ce qui est l'essentiel de votre colloque, le rôle que peut jouer la communauté scientifique et l'éducation. Je parlerai d'une chose très concrète. L'accord que nous avons obtenu à Paris l'année dernière et qui va être ratifié demain, était tout à fait improbable. Bon, quand on regarde les choses d'une façon simple, arriver à mettre d'accord 195 pays qui ne s'étaient jamais mis d'accord sur un sujet épouvantablement compliqué et des pays qui objectivement sont dans une situation très différente. Quel est le point commun entre l'Inde, les petites îles, la Russie, la France? Il y en a très peu. Arriver à cela était improbable, mais au fond, si nous avons réussi, c'est pas simplement, même si c'est essentiel, grâce au talent de ma voisine, avec lequel je faisais modestement équipe, mais c'est parce qu'il y avait ce que j'ai appelé un alignement des planètes. Alors, quelles étaient les planètes, en l'occurrence? Trois. La planète que j'appellerais politique. Bon, on n'aurait jamais pu arriver à cet accord si les États-Unis, je dirais plutôt le président Obama, et la Chine n'avaient pas décidé, pour employer une formule vulgaire, de virer leur cutie, et donc de s'engager à plein dans la lutte contre le changement climatique, ce qui n'était pas le cas dans les conférences précédentes, ce qui s'était passé à Copenhague en 2009. Et comme ils sont les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre de la planète, évidemment, leur implication a eu des effets considérables sur les autres. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les autres étaient convaincus. Nous avons eu l'occasion avec Laurence de voir plusieurs fois le Premier ministre Modi, Premier ministre de l'Inde, et il faut se mettre un instant de déraison à sa place. Voilà un homme qui, personnellement, est très intéressé par les technologies nouvelles, qui, lorsqu'il était Chief Minister du Gujarat, a fait beaucoup de choses, mais qui gouverne un pays qui a 1,3 milliard d'habitants, qui doit sortir 400 millions d'Indiens de la pauvreté et dont la ressource est le charbon. Et présenté ainsi, c'est extrêmement audacieux de signer un accord qui veut dire qu'on va aller vers une société décarbonée. Mais la planète politique était au rendez-vous et par effet de contagion, nous sommes parvenus comme une espèce de sculpteur qui, à partir de l'argile brute, façonne des blocs et puis fait s'agrécher des blocs, à ce que tout le monde, finalement, signe cet accord qui va être ratifié. Mais il a déjà été signé par 195 pays. Donc, la planète politique, pour la première fois. La planète sociale, ou si on est un peu prétentieux, sociétale. C'est-à-dire à la fois les collectivités locales, les entreprises, les ONG, les simples particuliers, qui, compte tenu de la détérioration du dérèglement climatique, ont évolué dans leur position et commencé, même plus que commencé, à s'intéresser activement au changement climatique. Et le changement le plus intéressant, c'est le changement des entreprises. Il y a quelques années, on avait fait l'expérience, lorsqu'on parlait à telle ou telle grande entreprise de ce qu'il fallait faire pour décarboner son activité, on disait, oui, mais écoutez, je suis à la tête d'une entreprise, je ne suis pas à la tête d'une ONG, donc non. Et désormais, les choses ont changé. Et je le vois tous les jours. Telle grande banque française décide de ne plus financer le charbon, lorsque la plus grande agence de notation mondiale qui s'appelle Standard & Poor's, qui n'est pas une organisation philanthropique, décide de pénaliser les sociétés ou les pays qui ne sont pas engagés dans la décarbonation, lorsque Paul Polman, le patron de l'univers, me disait ça hier, vous avez 1600 entreprises qui maintenant ont une tarification du carbone en interne, ça veut dire que les choses ont changé. Donc, planète politique, planète sociale ou sociétale et planète scientifique. Le travail qui a été fait et qu'on symbolise par les initiales GIEC, mais qui est finalement beaucoup plus large, est un travail extraordinaire. Car nous aurions tenu cette réunion, probablement d'ailleurs ne se serait-elle pas tenue il y a 15 ans, en tout cas on aurait tenu une réunion sur la question du changement climatique, la première moitié de la réunion aurait été consacrée à la question de savoir s'il y en avait un, et la deuxième moitié de la réunion à savoir si il avait une origine anthropique. Bon, et il aurait resté peu de temps pour savoir quelles sont les solutions. Aujourd'hui, mis à part quelques exceptions, et parmi les exceptions, il y a quand même la moitié des Américains, ce qui pose un problème, y compris un candidat aux élections, considère que, en ce qui concerne l'état de la science, je dirais pas les choses sont tranchées, mais enfin, on sait que le phénomène existe, on sait qu'il a une origine essentiellement humaine, et donc on peut se consacrer à la question de savoir quelles sont les actions qu'on doit mener. Et ça, c'est dû au travail des scientifiques. Et je ne suis pas un philosophe des sciences, mais, ou un historien des sciences, mais je pense que c'est une des premières fois où une coordination scientifique est arrivée à modifier à ce point, en peu de temps, une opinion publique mondiale. Et là, il faut vraiment en porter reconnaissance au GIEC, qui d'ailleurs a obtenu le prix Nobel, non pas au titre de telle ou telle discipline scientifique, mais au titre de la paix, ce qui me paraît parfaitement pertinent, parce que la question climatique, c'est la mère de toutes les batailles. C'est pas simplement une question climatique, c'est une question qui a des incidences sur le niveau des mers, sur la santé, sur la nourriture, sur les migrations. Et quand on voit les problèmes qui sont déjà posés par le fait qu'un million de personnes viennent d'Afrique chez nous, si on vous multiplie par 100, compte tenu de la désertification, là, ce n'est plus un problème, c'est le problème. Et donc, c'est la question de la guerre ou de la paix, finalement, qui est posée. Et le travail des scientifiques, travail très prudent, parce que les rapports du GIEC, qui ne sont pas le livre de chevet que je recommande à toutes les personnes, bon, sauf celles qui sont atteintes d'insomnie, ne sont pas facilement accessibles. C'est d'ailleurs une des conclusions qu'il faudra certainement tirer. Quand je vous ai vu, professeur, je vous ai dit, et j'avais dit ça, bien sûr, au président de GIEC et à la vice-présidente, faites-vous comprendre. Bon, parce que il faut évidemment que le substrat soit scientifiquement incontestable, donc très prudent, et les recommandations sont prudentes. C'est même le minimum minimorum. Mais après, il faut que ça passe en langage courant. Sinon, dans le monde où nous sommes, ce qui n'est pas compris n'existe pas. Travail formidable. Travail formidable. Et c'est l'alignement de ces trois planètes, la planète sociale, la planète politique et la planète scientifique, qui a permis que, ensuite, avec nos modestes moyens de diplomates, on fasse un travail qui fait que ce qui n'était jamais arrivé arrive et qu'on se mette d'accord, non pas sur un texte de Flaubert, mais sur 29 articles et 140 paragraphes de décision qui, on dit souvent, n'ont pas de valeur contraignante juridique. Il n'est pas question de mettre en prison le président Poutine parce qu'il n'aura pas respecté ces choses. Mais le fait qu'il y ait un accord signé, maintenant ratifié, avec la pression des pairs, la pression de l'opinion publique, est un changement absolument énorme. L'éducation, par rapport au travail qui nous attend. Le travail qui nous attend est très compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez un double mouvement qui, d'une certaine manière, est contradictoire et c'est très difficile d'expliquer les contradictions. D'un côté, il ne faut pas être bégueule, ce qui a été fait à Paris est remarquable et ce qui est fait depuis un an dans la foulée de Paris est remarquable. Mettre tous ces pays d'accord, formidable, voir qu'ils ont pris des engagements, ce qui n'était jamais arrivé, 189 pays sur 195, c'est remarquable. Voir que ça a été ratifié par, je crois qu'on est à 94 pays aujourd'hui, c'est remarquable, alors que pour Montréal, on avait mis des années et des années. Voir que parallèlement, il y a un accord qui concerne l'aviation, alors qu'il n'existait pas jusque-là. Voir que l'autre jour, au Rwanda, on s'est mis d'accord sur ce qu'il faut faire des HFC, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus polluantes, si on peut simplifier encore que le reste. Bon, c'est magnifique. Voir aussi le développement des énergies vertes, voir l'engagement des pays, tout ça est extraordinaire. Donc, bravissimo. Mais vous êtes des scientifiques, si on regarde les chiffres sont très mauvais, et beaucoup plus mauvais que ce que nous-mêmes nous avons été amenés à dire. On symbolise ça par 1,5 degré et 2 degrés. Bon, le dernier rapport nous indique qu'on a passé, par rapport à l'époque pré-industrielle, déjà les 1 degré en 2015, et que sur la ligne actuelle, on sera à 1,5 degré en 2030 et à 2 degrés en 2050. Et donc, si les choses continuent comme aujourd'hui, il n'y a absolument aucune chance qu'on reste en dessous de 2 degrés en 2100, ou de 1,5 degré. Quand vous regardez aussi le pourcentage des sources d'énergie, bien sûr, les énergies vertes se développent extraordinairement, etc. Enfin, quand vous regardez l'état du stock, c'est quand même essentiellement des énergies fossiles, c'est 83% au niveau mondial. Quand vous faites des projections avec l'accumulation de ce qu'on appelle les INDC, c'est-à-dire les engagements nationaux, qui sont une innovation formidable, lorsqu'on additionne tous ces engagements nationaux qui ont été rendus publics à l'occasion de la COP de Paris l'année dernière, on arrive non pas à 2 degrés, on n'arrive pas à 1,5 degré, mais on arrive à entre 3 degrés et 3,4 degrés, bon, plutôt 3 degrés. Mais entre 3 degrés et 1 degré et demi, c'est pas du tout simplement diviser l'effort par deux. Et donc, les chiffres, les tendances, l'élément accumulé est extrêmement mauvais. Et c'est difficile pour un public non averti à comprendre cela, mais dans ce domaine, on n'est pas comme dans d'autres domaines où, quand on échoue une année, on peut recommencer l'année prochaine, parce que entre-temps, les gaz, ils ont été émis et ils ne disparaissent pas. Et donc arrive un moment où on peut parler d'emballement climatique. Et ce qui est compliqué vis-à-vis de l'opinion, c'est à la fois de dire bravissimo pour ce qui a été fait à Paris et ce qui est fait dans le fil de Paris, mais en même temps, mesdames et messieurs, on n'est pas du tout au niveau. Il ne faut pas, d'un côté, désespérer, car si vous expliquez aux gens qu'aujourd'hui, c'est difficile, demain c'est pire. Bon, les gens disent très bien, pas d'effort. Mais d'un autre côté, il faut aussi dire que le mot d'ordre doit être application de Paris et accélération. Je ne sais pas, je n'étais pas là au début de l'exposé de Laurence, si elle a eu l'occasion de vous expliquer que nous, nous avons été obligés, parce qu'il fallait trouver une synthèse, de mettre des dates. Alors, ces dates, c'est 2020, 2025, 2030, etc. Mais nous sommes absolument convaincus qu'il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et donc, j'espère que ce sera fait à Marrakech. Il faut avoir une pédagogie, c'est là où je viens à l'éducation, qui explique, je vais faire un geste, je ne peux pas le traduire par des mots, que, au fond, on était dans une courbe qui était comme ça, qu'elle sort évidemment totalement de l'épure, et que, à la fois par les efforts de tout le monde, par les nouvelles technologies, par, on doit arriver à inverser la courbe pour revenir à un point. Nous nous avons dit dans l'accord 2 degrés, hopefully 1 degré et demi, mais les futurs travaux du GIEC vont montrer, et là encore il y aura une difficulté d'explication, que 1 degré et demi, c'est très 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 difficile, même si c'est ce qu'il faudrait faire, faute de quoi, notamment les aosis, les petites îles, etc., sont recouvertes par les flots et n'existent plus. Là, c'est plus une question de condition de vie, c'est une question de vie. Alors, pourquoi vous ai-je dit cela ? Parce que ce n'est pas une description théorique, c'est ce que nos successeurs vont trouver sur la table à Marrakech, dans quelques jours. Et qu'est-ce que doit faire Marrakech ? Veiller à l'application de l'accord de Paris, aller plus loin dans les détails que ce que nous avons pu faire, et en particulier sur deux, trois sujets qui sont absolument majeurs. Le premier sujet, c'est la transparence. Bon, d'accord, les États ont pris des engagements, mais il n'y a pas d'engagement sans vérification. Et au moment où vous vérifiez, ah, ça c'est le juge de paix. Car tel État qui aurait dû faire 100 et qui fait 200, on ne va pas mettre son dirigeant en prison, donc comment fait-on ? La technologie va probablement nous aider, car il va y avoir des satellites qui vont tourner, expliquer exactement où on en est. Et là, les États ne pourront pas tous expliquer que ça vient du voisin. Donc il y aura un moment de vérité. Mais nous avons eu cette difficulté, nous ne l'avons pas résolue à ce stade. Un certain nombre de pays, puisque le grand clivage était entre pays riches et pays pauvres, ils disaient, ah bien, pour l'évaluation, la transparence, il faut distinguer entre les pays pauvres et les pays riches. Les pays riches, ils doivent avoir une vérification très précise. Les pays pauvres, c'est autre chose. À quoi s'en choquer, parce que nous sommes diplomates, nous avons dit, mais écoutez, bon, ça, c'est une bouteille d'eau. On ne peut pas dire que c'est du vin ou autre chose, quelle que soit la richesse ou la pauvreté du pays. Donc cette question de la transparence et du contrôle va être absolument déterminante. Une autre question très importante va être la question de savoir si on finance. Là, on prend des engagements financiers, d'ailleurs, ils sont antérieurs à Paris, ils datent de Copenhague, 2009, et il y a un chiffre qui est un chiffre symbolique, enfin important, qui est 100 milliards de dollars par an qu'il faut que les pays du Nord fournissent aux pays du Sud. Pas 100 milliards, contrairement à ce qu'on dit souvent ou à ce qu'on pense, de crédit public. 100 milliards, tout compris. Mais on n'en est pas encore aux 100 milliards. Et un certain nombre de pays, notamment tous les pays africains, qui polluent très peu, mais qui sont les premières victimes du changement climatique, disent, tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais où sont les financements, où sont les technologies ? Donc il va falloir les fournir. Et on est encore, enfin, on est sur un cheminement qui est assez positif, mais qui est encore assez loin du compte. Et là, il y a des confusions. Alors là aussi, l'éducation intervient, y compris, on a été surpris, Laurence et moi, d'entendre ça, parmi des experts, ou supposés tels, on dit, mais la solution, c'est le fonds vert. Vous avez entendu, le fonds vert. Oui, mais le fonds vert, c'est très bien, mais le fonds vert, il a 10 milliards de capitalisation. Et il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour comprendre qu'avec 10 milliards de capitalisation, on peut difficilement arriver, même avec un effet de levier, à fournir 100 milliards par an. Il y a un petit problème, là. Bon. Donc, le financement, c'est une clé, faute de quoi les pays pauvres vont se rétracter, le contrôle, la transparence, l'administration de Paris, et puis l'accélération de tout ça, qui ne doit pas avoir lieu en 2025, en 2030, etc. Mais je pense que l'accord chez les spécialistes est pour que 2018 soit l'année du rendez-vous, où on remette à niveau tous les engagements des uns et des autres, où on s'apercevra objectivement, grâce à l'aide des calculs du GIEC, etc., qu'on n'est pas là où il faut, et donc on va demander un effort supplémentaire, et où, technologiquement, on va pouvoir déjà entrevoir des perspectives. Voilà exactement, me semble-t-il, la situation où en est le monde par rapport à ce changement climatique, qui n'est d'ailleurs pas simplement un changement ou un réchauffement, qui est plutôt un dérèglement climatique, car ça ne se traduit pas partout par un réchauffement, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Là-dedans, les scientifiques ont eu un rôle majeur, ont un rôle majeur, vont avoir un rôle majeur, et l'éducation aussi, car il y a une connexion bien évidente entre les deux. Ils ont eu un rôle majeur, j'ai essayé de vous le montrer à propos du GIEC, mais bon. Ils ont un rôle majeur parce que c'est eux qui vont être le juge de paix pour nous dire, mesdames et messieurs, les responsables gouvernementaux, locaux, sociétés civiles, vous n'êtes pas au niveau. Donc, il faut remonter. Et un rôle majeur dans l'évaluation des scénarios alternatifs. Parce que il ne faut pas uniquement décrire les risques, mais il faut aussi décrire les risques. Et si on n'arrive pas à ces 2 degrés ou c'est 1 degré et demi, c'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent par une formule rapide, la planète qui est détruite, la planète continuera d'exister. Mais une partie de l'humanité, l'humanité est la partie la plus pauvre, la plus fragile, elle n'aura pas la capacité de vivre. Et donc, ce sont ces scénarios aussi qu'il faut décrire pour arriver à illustrer la formule qui était excellente de Ban Ki-moon, qui disait souvent, en bon français, « There is no plan B because there is no planet B ». Voilà. Donc, bon, ça résume quand même le problème. Bon. Et là, l'éducation, entendue au sens de pédagogie, est absolument décisive. Alors, quand je reviens aux travaux des scientifiques, oui, il faut qu'ils continuent à être parfaitement objectifs, raisonnables, insoupçonnables, comme ils l'ont été. Il faut en même temps qu'ils fassent un effort de vulgarisation par rapport à ce qui a été envisagé. Et je crois que les nouvelles instances du GIEC en sont absolument convaincues. Il faut qu'on mêle en permanence l'affaire climatique et l'affaire de développement, c'est ce que vous disait Laurence, et ça c'est important en soi, et c'est important dans la manière dont c'est reçu par les populations et les pays du monde, et il faut commencer tout petit, et par des méthodes qui ont prouvé leur efficacité. Et j'ai entendu citer la main à la pâte, voilà, ce sont des. Il faut que par une diversité de méthodes, en utilisant à la fois le plus ancien et le plus nouveau de la technique, on arrive à ce que les jeunes comprennent vraiment le phénomène et souvent par un mécanisme inversé éduquent leurs parents, parce que finalement c'est comme ça que ça se passe. Et sans faire de catégorisation, je crois qu'il y a un travail très particulier à faire auprès des femmes. Parce qu'il est avéré que ce sont les femmes qui sont les principales victimes du dérèglement climatique, pour des raisons évidentes quand on voit ce qui se passe dans les pays pauvres, et qu'elles ont la capacité de réorienter un certain nombre de choses, et que donc il faut faire un travail auprès d'elles, dans le cadre plus large de cette priorité qui s'appelle l'éducation des jeunes femmes, qui est la seule manière de maîtriser à peu près les questions démographiques. Donc ce sont des sujets absolument déterminants qu'on a devant nous, et je me réjouis que l'AFD, sous la conduite de Laurence et de Rémy Rioux, soit tout à fait engagée en ce sens, en coopération avec ce que fait l'Académie des sciences. Voilà quelques idées dont je suis sûr que vous les aviez à l'esprit, mais que je voulais traduire, parce que même si je ne m'occupe plus fonctionnellement de cela, vous avez compris que je continue à m'y intéresser. Je voudrais finir par une citation de Nelson Mandela, que j'en suis sûr vous partagerez, qui a dit un jour ceci, je crois que c'était à l'occasion de l'enterrement, non pas de l'enterrement, je suis complètement, je me trompe, de l'anniversaire, c'était le 90e anniversaire d'un de ses compagnons de cellule qui s'appelait Walter Sisulu. Il a dit ceci, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde, et il a ajouté, et cette arme-là, c'est une arme de paix. Et je trouve que c'est très bien. Et me revient une autre citation, on ne se change pas. Vous savez qu'il y a des élections américaines, et lorsque le président Lincoln s'est présenté aux élections, il était élu, son adversaire disait en permanence, déjà, « L'éducation, mais c'est cher, c'est cher, c'est cher, arrêtez, arrêtez. » Et Lincoln aurait répondu, « L'éducation, c'est cher, essayez donc l'ignorance. » Et je pense que ça clôt en partie le débat. Merci.